Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Brice.
Oui, bonsoir.
Bonsoir et bienvenue.
Content de pouvoir discuter avec vous.
Mais moi aussi. De quoi voulez-vous me parler, Brice ?
Alors, moi en fait, je viens vers vous parce que j'ai un petit... je me retrouve un petit peu perdu dans la vie. Pour un souci qui dure depuis 10 ans.
D'accord. Et quel est ce souci ?
Alors, pour vous expliquer le dernier truc, c'est qu'au mois d'octobre, oui, il m'est arrivé, encore une fois, un très grave accident de travail où j'ai failli perdre la vie. Professionnellement, je suis échafaudeur.
Ah oui. Oui, métier à risque. Hein. Échafaudeur, oui, ça veut dire c'est vous qui montez les échafaudages ?
Je monte et démonte les échafaudages.
Ah oui, parce que je me posais la question dans le bâtiment. Ce ne sont pas les ouvriers du bâtiment, de l'entreprise qui montent l'échafaudage. Vous passez avant, vous, c'est un métier.
Certaines entreprises qui montent un petit échafaudage le montent eux-mêmes. Oui. Mais quand c'est vraiment un très gros chantier, oui, c'est nous, en tant que professionnels, qui venons et qui le montons.
Ah oui, il y a des entreprises. Et donc, c'est votre métier, c'est échafaudeur.
C'est ça.
Ah d'accord, je ne connaissais pas. Vous voyez, vous m'apprenez quelque chose. Et comment on devient échafaudeur ?
On a une formation, une petite formation qui nous apprend à monter l'échafaudage dans les règles de l'art,
tout en gardant mieux. La sécurité. Que ça tienne la route, surtout quand il y a du vent et de la tempête.
Mais on a certaines règles de sécurité forcément à respecter pour monter un échafaudage. Oui. Parce que quand nous, on est envoyé sur un chantier pour monter un échafaudage, on ne monte pas un échafaudage de 10 mètres. On monte un échafaudage de 25, 80, 100 mètres.
Ah bon ? Mais vous avez des harnais ? Vous êtes équipé
Oui, on a aussi des harnais. Mais les harnais, en fait, c'est plus pour une sécurité psychologique.
Ah oui, parce que ça...
Parce que, à savoir que quand on tombe avec notre harnais, on a 10 minutes d'espérance de vie.
Bon, d'accord.
Parce que le harnais nous coupe la circulation sanguine au niveau de l'artère et tout, donc en fait, on a 10 minutes d'espérance de vie.
Bon. Heureusement, mais enfin, vous me dites que vous avez eu un grave accident, là, en octobre dernier ?
Oui. Moi, c'est un bout d'échafaudage qui m'est tombé dans le dos. Sur le dos, très haut.
Oui, oui.
Et en fait, je vous appelais, c'était pas pour ça spécialement. C'est que moi, depuis spécialement 2002, où j'ai eu mon premier accident, où j'ai vraiment, vraiment failli perdre la vie, depuis 2002, on va dire qu'en moyenne, tous les 2 ans, j'ai essayé de perdre la vie.
Ah bon ?
Tous les 2 ans, il m'arrive un gros accident, au point que je risque d'y rester.
Et pas seulement dans votre métier d'échafaudeur.
Pas seulement dans mon métier, c'est ça.
Parce que c'est un métier à risque, quand même.
Oui.
Oui. Mais c'est pas seulement dans votre métier. Que s'est-il passé en 2002 ? Que vous est-il arrivé ? Vous me parlez d'un grave accident.
En 2002, en revenant à un festival de musique avec des amis, on a fait un face-à-face avec un poids lourd. Où presque tous mes amis sont restés dans l'accident, sont décédés.
C'est terrible. Oui.
Et moi, j'en suis sorti dans le coma qui s'est poursuivi d'un long fauteuil roulant.
D'accord.
Et c'est à la suite de ça où j'ai voulu, en fait, comme une vengeance envers la vie, me mettre dans l'échafaudage. Donc, c'est pas risqué, c'est... Voilà, je voulais
prendre des risques.
Je voulais lutter.
Vous dites comme une vengeance.
Oui.
Mais qui se retourne contre vous.
Un petit peu, oui.
Mais oui. Vous étiez combien dans cette voiture ?
On était 5.
Et vous êtes le seul survivant ?
Pas, en fait, le seul, pas exactement le seul survivant, parce que j'ai un ami qui en est sorti également, mais qui, lui, à l'heure actuelle, est très abîmé par le, par l'accident.
Oui, qui garde de très graves séquelles.
Mais garde de très graves séquelles physiques.
Oui.
Autant moi, j'en suis, autant même après un an de fauteuil roulant, après avoir été dans le coma et tout, maintenant j'ai récupéré toutes mes capacités physiques.
Oui. On vous a dit dès le départ que vous alliez remarcher, ou à un moment le pronostic était réservé quand vous êtes sorti du coma et peut-être avant.
Quand je suis sorti du coma, en fait, je ne savais pas si j'allais remarcher.
Oui.
Et étant donné que le coma a été aussi engendré par un très gros traumatisme crânien, qui m'a engendré beaucoup de problèmes, comme une amnésie. En fait, avant 2002,
oui.
J'ai presque pas de vie, quoi. Je me rappelle de presque rien avant 2002.
Vous ne pouvez pas vous raccrocher à des souvenirs ?
Très très peu.
Ouais. Mais au point de ne pas reconnaître des gens de votre entourage, ou c'est simplement par rapport aux souvenirs de votre vie, mais que vous avez une reconnaissance des gens et des endroits?
Maintenant, je reconnais les gens,
oui.
Même si j'ai aucun souvenir du passé, mais j'arrive quand même à reconnaître les gens. Mais quand je suis sorti du coma, je ne reconnaissais même pas ma propre mère.
Oui. Il vous a fallu tout réapprendre.
Tout réapprendre, c'était une nouvelle naissance. J'ai oublié de réapprendre à manger, oublié de réapprendre à parler, oublié de...
Vous êtes resté longtemps dans le coma ?
Dans le coma, pas longtemps, je suis resté une semaine.
Une semaine, d'accord. Oui, mais c'est long, une semaine dans le coma déjà. Et vous aviez quel âge au moment de cet accident, Brice ?
Au moment de cet accident, j'avais 22 ans.
Ah oui.
Mais j'avais déjà ma vie professionnelle de tracé.
Oui.
Parce que j'étais à l'origine, à ce moment-là, j'étais chef de cuisine. Même à 22 ans, j'étais déjà chef de cuisine.
D'accord. Oui. C'était un métier de passion, ou c'était
oui.
Un... D'accord. Et pourquoi vous n'avez pas repris dans votre domaine ?
Parce que, étant donné que c'est un métier de passion,
oui.
Quand je suis ressorti, j'avais en plus de mon amnésie, parce qu'à ce moment-là, forcément, j'avais tout oublié. Donc, toutes mes compétences professionnelles avaient été oubliées.
Oui, oui.
Et en plus, j'étais touché d'une anosmie à ce moment-là.
Ah, vous ne pouviez pas, vous ne sentiez plus...
J'avais plus d'odorat et j'avais presque plus de goût.
Oui, vous l'avez retrouvé ?
Plus, pas à 100%, mais plus.
Pas à 100%, oui, donc dans votre métier, évidemment, c'est handicapant.
C'était même impossible, travailler en tant que cuisinier...
Sans sentir les odeurs.
Et puis, vu que c'est un métier de passion, ça, je ne pouvais pas, quoi. Je ne pouvais plus continuer.
Oui, donc il y a vraiment là une fracture, c'est une fracture énorme dans votre vie. Au moment où vous vous lanciez dans la vie, jeune homme, 22 ans, tout a basculé pour vous.
C'est ça. Et je vous dis, depuis 2002, en moyenne, tous les deux ans, je risque de perdre la vie. Il m'arrive toujours quelque chose, c'est toujours un gros truc, quoi.
Et grave, à chaque fois.
Oui, c'est ça.
Oui, donc comme si inconsciemment, vous vous mettiez en danger.
Ouais.
Vous n'aviez pas un comportement à risque auparavant. Alors, 22 ans, c'est très jeune. L'adolescence n'est pas très loin. Mais est-ce que, justement, ça interroge parfois des adolescents qui ont vraiment des comportements à risque, qui frôlent comme ça, qui se mettent en danger. Et vous, est-ce que c'était votre cas auparavant, avant cet accident ?
Je sais pas si on peut appeler ça un comportement à risque. Moi, j'étais comme tous les jeunes, à aimer faire la fête, à aimer faire des bêtises, à aimer s'amuser, voilà quoi.
Oui, mais ça, jouer un peu avec les limites, mais
oui, c'est
pas forcément se mettre en danger. Donc là, depuis, vous dites que depuis l'accident, donc vous vous rendez compte que vous avez une succession d'accidents, que ce soit dans votre travail ou peut-être dans vos loisirs, d'accidents dans votre vie.
Dans la vie en général, tous les deux ans, je risque vraiment de perdre la vie tous les deux ans, quoi.
Et là, vous êtes depuis quand êtes-vous échafaudeur ?
Là, je suis échafaudeur depuis 3-4 ans.
D'accord. Comment vous vous êtes retrouvé là-dedans ? Parce que ça n'a rien à voir.
Mais en fait, c'est ce que je vous dis, en fait, vengeance pour moi par rapport à la vie. J'ai absolument, étant donné que je me suis retrouvé plus d'un an en fauteuil roulant, j'ai voulu faire des métiers très physiques et très physiques pour repousser mes capacités, pour déjà revenir à toutes mes capacités et repousser toutes mes capacités.
Mais dans ce que vous me dites, vous êtes un miraculé.
Ouais, c'est difficile d'accepter le mot, mais un peu, oui.
Pourquoi c'est difficile d'accepter le mot ?
Parce que je crois que par rapport à mon accident en 2002, le plus gros regret que j'ai eu, c'était de ne pas, c'est dur de dire le mot, mais de ne pas être décédé avec mes amis.
Ouais. Oui. C'est lourd à porter. De savoir que...
Pourquoi moi, m'en être sorti alors que dans la voiture, j'avais ce qu'on appelle la place du mort.
Vous étiez devant, à côté du conducteur.
C'est ça.
Ça vous a... C'est quelque chose qui vous obnubile un peu.
Oui.
Finalement, c'est pourquoi.
Pourquoi moi.
C'est ça.
Pourquoi moi, par la suite, oui. Pourquoi encore tout ça ? Pourquoi tout ça ?
Oui, pourquoi jouer avec votre vie un peu, inconsciemment ? Peut-être pour cela, parce que c'est lourd à porter d'être... Alors, non pas le seul survivant, puisque vous me dites que vous avez un de vos amis sur les cinq aussi qui est vivant, mais avec des séquelles physiques qui le laissent très diminué, si je comprends bien, qui ne peut pas mener une vie normale aujourd'hui.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Ben, c'est ce que vous décrivez d'une violence effroyable. Quand vous dites, d'ailleurs, même dans les mots que vous utilisez, quand je vous ai demandé la nature de cet accident en 2002, vous m'avez dit un face-à-face avec un poids lourd. Un face-à-face avec la mort, finalement.
C'est ça.
Oui, ça laisse des traces, hein, toujours. Quand bien même vous auriez... vous en seriez sorti indemne, c'est-à-dire sans séquelles physiques, vous n'en seriez pas sorti indemne psychologiquement.
Excusez-moi. Non, je pense qu'on ne peut pas s'en sortir indemne.
Mais justement, en vous écoutant, on a réparé, il y a eu cette semaine de coma, et puis certainement cette année, où vous dites un an en fauteuil roulant, où vous avez été dans des centres de rééducation, certainement vous avez dû vous battre pour récupérer vos forces physiques, peut-être dans un centre aussi de traumatisés cérébraux, si...
Oui,
c'est ça. Mais... Dans ce centre pour traumatiser cérébraux, j'imagine qu'on a pris en compte aussi l'aspect psychologique, c'est-à-dire ces blessures qui sont invisibles mais qui sont bien présentes.
Justement, non.
Ah bon ?
Non, dans un centre de rééducation où il n'y a que des accidentés.
Oui.
En fait, on est énormément basé sur la rééducation, sur remettre physiquement,
oui, bien sûr.
Mais très très peu psychologiquement.
Même dans un centre pour traumatiser cérébraux.
Oui, c'est très très peu, le rapport psychologique est très très peu mis en compte.
Bah, c'est une lacune, ça. Même si la priorité, évidemment, est de récupérer vos capacités, y compris vos capacités cognitives, tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage, un travail sur la mémoire, enfin, où il y a tout à réapprendre. Mais vous le dites d'ailleurs, c'est comme une seconde naissance.
Oui.
Et le traumatisme demeure. Il y a jamais eu, vous n'avez jamais bénéficié d'un soutien psychologique, d'un accompagnement.
Non. Mais après, en y réfléchissant là, tout de suite maintenant, c'était peut-être un soin personnel qu'on ne m'a pas apporté. Parce que moi, à ce moment-là, j'étais énormément, mais vraiment énormément, énormément dans la colère.
Oui.
Je m'énervais plus que très facilement et j'étais très 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 en colère, et très très presque méchant.
C'est agressif voilà. En fait.
Ouais, très agressif.
Ouais, c'est pas de la méchanceté, c'est de l'agressivité. Oui.
Mais
donc
quand je disais méchant, c'est que même mes professeurs de rééducation, quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, je veux dire quand j'arrivais pas par exemple à marcher sans tomber, mais en fait c'était eux qui prenaient, mais j'allais même jusqu'à les insulter.
Vous en vouliez la terre entière?
Oui.
Ouais. On vous a appris, j'imagine, pas tout de suite, le décès de vos amis. D'abord, vous étiez dans le coma, la première semaine. Comment l'avez-vous appris? Quand vous l'a-t-on appris?
Je l'ai appris, j'étais encore en centre de rééducation.
Oui.
Parce que j'ai demandé aussi à avoir... j'ai posé beaucoup de questions aussi par rapport à ça. Et en fait, j'ai demandé à... Quand on m'a dit que j'avais eu un accident, j'ai demandé les détails. Et c'est là où on m'a appris, c'est là où ma mère, parce que ma mère, tout le long où j'étais dans le coma et tout, elle faisait comme un petit journal intime de ses sensations, de ce qu'elle vivait, et elle gardait aussi tous les articles de journaux par rapport à l'accident, tout ça. Et quand moi, j'ai voulu me renseigner, que j'ai voulu poser des questions, elle m'a donné tout ça.
D'accord. Vous avez lu ce carnet qu'elle avait écrit
C'est ça.
Oui.
Et c'est là aussi où j'ai appris la mort de mes amis.
Dans ce carnet
Oui. En fait, c'était sur un article de journal de l'accident qui détaillait l'accident et qui disait telle personne, en fait, qui donnait les noms. Qui donnait les noms des personnes qui étaient impliquées dans l'accident. Et c'est en lisant les noms que je me suis rappelé de certaines personnes, parce que dans l'accident, j'avais aussi un de mes meilleurs amis qui était là, qui lui est décédé.
Ce qui veut dire, quand vous dites qu'en voyant les noms, vous vous êtes rappelé certains de vos amis, c'est-à-dire que la violence du choc et le traumatisme crânien qu'il avait engendré avait fait que vous aviez plus de souvenirs, j'imagine, de l'accident, mais même pas de vos amis, au fond.
Ah non, mais je ne me voyais même pas monter dans la voiture, c'était vraiment
ça. Il y a un blanc total. Mais... à la lecture de cet article de journal, vous me dites qu'en voyant le nom, là, il y a quelque chose qui s'est allumé dans votre esprit ou...
Et en voyant le nom...
De vos amis
En voyant le nom, surtout de lui, en voyant son nom dans l'article de journal, j'ai eu comme... Je ne sais pas si on peut appeler ça un flash.
Oui, si.
Mais j'ai vu...
Un visage,
le nom,
un...
C'était. Voilà, j'ai vu qui c'était.
Oui.
Et ça m'a... Sans exactement me rappeler, sans les détails, sans tout ça, ça m'a énormément, traumatisé.
Ben oui,
au point que le soir même, en centre de rééducation, j'ai été jusqu'à faire une tentative de suicide.
Oui. Et là, on ne vous a pas... Parce que là, on voit bien, là, c'était de l'ordre de l'insoutenable pour vous, de l'insupportable. après cette tentative de suicide, on ne vous a pas proposé un suivi? Ou vous dites que vous étiez tellement en colère qu'à ce moment-là, vous refusiez, au fond? Peut-être. C'était la colère qui dominait. Il y a de l'énergie dans la colère. C'est une façon de tenir aussi, la colère. Enfin, vous voyez, il y a... Parfois, la colère, c'est pour lutter contre la dépression, contre l'effondrement intérieur. C'est ce qui vous a aussi aidé à tenir, certainement.
Je pense.
D'être en colère. Aujourd'hui, quand vous m'en parlez, je ne sens pas de colère aujourd'hui. Mais est-ce qu'elle est présente chez vous? Qu'est-ce qu'il y a comme autre sentiment, comme autres émotions en vous?
Par rapport à cet accident-là, l'émotion qui reste, c'est la tristesse.
C'est la tristesse, ouais.
Je ne peux, d'ailleurs, l'article du journal, je l'ai jeté, tout, même le petit journal, même le petit carnet de journal intime que ma mère a fait, je l'ai jeté aussi. Parce que je ne peux pas relire quelque chose là-dessus sans me mettre à pleurer et sans être totalement
dévasté.
Perdu, quoi, totalement dévasté, c'est
ça. Oui. Ben oui, ça a été vos premiers mots, hein, d'ailleurs, Brice. Vous dites, vous m'avez dit, je me sens perdue dans ma vie. C'est comme si, face à l'effroi de cette réalité-là, vous avanciez dans un monde où il n'y a plus de sens, plus de boussole, et où finalement, peut-être, votre seule façon aujourd'hui de vous sentir vivant, c'est en vous mettant en danger.
Oui. Et quand il m'arrive quelque chose, la première réaction que j'ai, après, je ne sais pas si... Enfin, c'est encore, et encore, quoi.
Encore et encore, quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire?
Encore et encore le mal, encore et encore la douleur, encore et encore le fait d'être mal et d'avoir mal.
Mais ressentir de la douleur, c'est aussi être vivant.
Ouais, mais on a marre d'avoir mal.
Ben oui. Mais vous avez mal, pas seulement physiquement, vous avez mal moralement. Parce que il y a cette confrontation brutale avec la mort de vos amis, et quelque chose presque qui a été tellement violent, qui relève, c'est le mot que vous avez utilisé, du traumatisme. Et finalement, ça a été un tel choc, ça a fracassé votre corps, mais aussi votre esprit. Votre tête, il n'y a pas eu que le traumatisme crânien, c'était déjà pas mal. Mais ça a fait traumatisme. Et ce qui fait traumatisme ne peut pas être... comment dire? Finalement, quand on est traumatisé, on est condamné à revivre. Alors, soit sous forme de flash, de cauchemar, c'est-à-dire que la réalité est toujours présente, comme si l'événement traumatique s'était passé il y a quelques jours, soit effectivement en le répétant dans des passages à l'acte.
Oui. Et le gros problème, c'est qu'à l'heure actuelle, ça joue encore sur ma vie personnelle.
Oui. Quelle est votre vie personnelle aujourd'hui?
Mais je vois que par ma vie personnelle, donc je travaille.
Oui.
Et je vis tout seul. Et c'est justement pour ça. Oui. Même si ça fait 15 ans que je suis toujours avec la même femme.
Oui.
Mais je ne peux pas vivre avec elle. Je ne peux pas vivre avec elle parce que pour moi, c'est... Mais, pourquoi j'irais vivre, pourquoi j'irais m'inclure dans sa vie alors que je risque de perdre la mienne demain?
Oui, c'est-à-dire que finalement, prendre le risque de vous attacher est trop douloureux. Mais c'était votre petite amie déjà en 2002?
Non, à ce moment-là, non, pas encore.
Non, vous l'avez rencontrée après?
Oui.
Et elle, depuis 15 ans, elle tient comme ça, Elle doit tenir beaucoup à vous pour tenir justement sans vivre avec vous, sans pouvoir faire de projet d'avenir, puisque vous me dites que vous vivez comme si d'un jour à l'autre, vous pouviez ne plus être là.
Mais c'est exactement ça. C'est... Demain, je peux mourir. Donc pourquoi lui infliger ça ?
On en est tous là. Parce que nous sommes mortels, donc on peut tous mourir demain.
Oui.
Mais la différence, c'est que nous le savons intellectuellement. Enfin, je dis ça, il y a des auditeurs, j'imagine, parmi ceux qui nous écoutent, ont frôlé la mort ou qui, confrontés à l'épreuve de la maladie, mesurent de très près, ne le pensent pas seulement, mais l'éprouvent dans leur corps. Vous l'avez éprouvé dans votre corps. Et cette confrontation brutale avec la mort, vous voyez les traces qu'elle laisse dans votre psychisme ? Et là, il y a besoin, vous avez besoin d'aide et d'un accompagnement psychologique, Brice, hein, vraiment, pour sortir de ça. Vous avez besoin d'aide. On a réparé votre corps, mais pas votre tête, pas ce qu'il y a à l'intérieur, pas la tristesse, pas la culpabilité. Parce que quand vous dites « pourquoi moi ?», en général, c'est la question que l'on se pose quand on est confronté à la maladie ou à un accident. C'est-à-dire, pourquoi l'accident ou la maladie nous arrive à nous, pas aux autres ?
Oui.
Donc on peut même avoir, parce que là on bascule parfois un peu dans l'irrationnel, on peut l'imaginer comme un châtiment pour des fautes qu'on aurait commises. La violence de l'accident peut se télescoper avec d'autres violences que l'on a subies parfois dans sa vie.
Oui. Mais je crois beaucoup, par exemple, au karma.
Oui.
Et je pense que c'est peut-être le problème aussi. C'est qu'à force qu'il m'arrive quelque chose, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai pu faire, quoi ? Mais qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie pour...
Vous voyez ?
En gros, presque pour qu'on m'en veuille à ce point, quoi.
Voilà. Voilà. Ça, c'est la culpabilité. C'est la culpabilité et finalement, on pourrait retourner les choses autrement. Si vous croyez au karma, on pourrait dire... Votre karma à vous, c'était justement de vivre et d'en porter le poids, qui est lourd, mais de vivre. Mais finalement, vous vous empêchez de vivre et même vous provoquez, et peut-être au fond, vous vivez comme un... C'est paradoxal, c'est-à-dire que vous dites, je peux ne plus être là demain. Et en même temps, peut-être que la seule façon, c'est une hypothèse que je fais, je peux me tromper, oui. De vous sentir en vie, c'est en vous mettant en danger. Et ça a à voir avec le traumatisme. En fait, la vengeance, quand vous dites, c'est comme, vous m'avez dit, comme une vengeance vis-à-vis de la vie, la vengeance, vous l'exercez sur vous-même.
Ouais.
Mais par rapport à ce que vous décrivez, c'est-à-dire, c'est assez fréquent, c'est même très fréquent, des personnes confrontées à un très grave accident, à partir d'une réalité inexplicable, violente, se met en place, ça chez les êtres humains, une autre réalité. L'accident imaginaire. Et là, on est dans un fantasme. C'est-à-dire que là, effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Un châtiment pour des fautes. Alors vous dites le karma. Qu'est-ce que je paye ? Qu'est-ce que je dois payer ? Certains évoquent les fautes de la justice divine, la vengeance du destin. Enfin, vous voyez, ça, chaque être humain confronté à la mort de façon aussi violente élabore un scénario. C'est inévitable. Parce que nous n'aimons pas rester face à l'inexplicable, face à ce qui n'a pas de sens. Face à ce qui nous échappe. Donc on va chercher des explications. Et là, il y a quelque chose dans ce karma, c'est comme si vous, vous parlez de karma, comme si vous vous punissiez.
Mais en fait, l'énorme question pour moi, oui, c'est, en gros, c'est quand est-ce que ça va s'arrêter? J'en ai marre d'avoir mal, j'en ai marre de tout perdre en même temps, de tout perdre à chaque fois. C'est, parce que là, avec ce qui m'est arrivé, par exemple, encore au mois d'octobre, ou même à l'hôpital, ils me l'ont dit, mais à 3 cm près, vous étiez mort. À 3 cm.
Oui, bon, à 3 cm, mais vous êtes là en train de m'en parler.
Mais je me dis, voilà, mais je suis encore là en train d'en parler. Mais alors, c'est peut-être, c'est peut-être grave, et ça peut m'achever de dire ce que je vais dire, mais c'est... Mais excusez-moi du terme, mais merde, quand est-ce que ça va s'arrêter? Que de toute façon, ou les accidents s'arrêtent, ou ma vie s'arrête, je sais pas, mais il faut que ça s'arrête, que j'en ai marre. Je peux pas continuer à vivre comme ça, c'est pas possible.
Mais non, vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça, parce que c'est pas une vie, c'est une survie.
Oui.
Donc, c'est là où je vous dis, Brice, vous avez besoin d'aide et d'un accompagnement psychologique. Au même titre que l'on a réparé votre corps, il faut maintenant que l'on répare votre psychisme, qui a été sérieusement endommagé. Où finalement, il y a une culpabilité immense d'être le seul à vous en être sorti. Il y a cet ami, il est en vie, mais malheureusement, avec... absolument pas la vie qu'il aurait pu avoir. Mais finalement, cette vie, vous ne la vivez pas. Vous ne la vivez que quand vous vous mettez en danger. Vous êtes avec une compagne depuis 15 ans, mais vous ne vous projetez dans rien. Vous ne vous autorisez pas à vivre votre vie. Donc là, il faut que vous soyez accompagné psychologiquement aujourd'hui. Parce qu'il y a cette tristesse en vous. Et cette tristesse, elle submerge un peu tout. Et finalement, c'est là où je pense que vous mettre en danger, c'est aussi vous sentir en vie, paradoxalement. Parce que moi, je n'entends pas un désir d'en finir. J'entends quelque chose qui est, finalement, dans cette mise en danger, une façon de vous sentir vivant, comme on voit chez des adolescents qui ont des conduites, des scarifications, ou parfois se couper, s'en prendre à son corps, c'est finalement à travers la douleur exister. Et votre problème, il est là, Brice, c'est d'arriver à exister, pas seulement à vivre. C'est à exister, à vous emparer de votre vie et en faire quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose aussi qui peut surgir de ça, de l'effroyable. C'est-à-dire que vous, vous êtes en vie. J'ai envie de dire, vous avez la chance d'être en vie. Le prix à payer a été très lourd, et physiquement et psychologiquement, on l'entend. Mais cette vie-là, il faut en faire quelque chose, et pas la vivre à moitié. Et il y a quelque chose du traumatisme chez vous, que vous répétez à travers ces accidents. Et ça relève de l'approche psy. Vraiment. Il faut que vous voyez un bon thérapeute qui va vous accompagner pour que vous arrêtiez de répéter constamment ce traumatisme et qu'il y ait une trouée là. Enfin, d'aller un peu vers de la lumière, vers de la vie, de vous autoriser à vivre votre vie. Parce que vous ne ferez pas revenir vos copains.
Non, c'est clair.
Bon. Vous ne ferez pas revenir vos copains. Et vous, à vivre comme ça à moitié, mais finalement, il faut en faire quelque chose de cette vie. Mais vous êtes dans une culpabilité, il y a une culpabilité, il y a des deuils, ça a été trop brutal, c'est compliqué. En fait, vous n'avez pas fait le deuil de qui vous étiez avant l'accident, de vos amis, et vous n'avez pas pu le faire parce que vous n'avez pas été accompagné. Et aujourd'hui, il y a cette culpabilité, qui est en vous et qui vous empêche de vivre. Alors, quand vous dites « je vais en finir », oui, avec la douleur, aujourd'hui, il faut en finir avec la douleur morale.
Après, le problème aussi que j'ai par rapport à ça, c'est qu'à ma... parce que moi, j'appelle ça une renaissance que j'ai eue en 2002, donc avec mon accident, mais je suis... je suis rené, on va dire, mais avec totalement une autre vie. Je suis
c'est
totalement
ça.
Une autre personne
oui,
que, qu'avant.
Mais oui, comme toujours après un accident. Et ce qui est compliqué, c'est que c'est là où il y a la nécessité d'être accompagné. Parce qu'il faut, il y a plusieurs deuils qui se télescopent, y compris le deuil de celui que vous étiez avant l'accident. Le deuil de vos amis, ben, il y a plein de choses qui se télescopent là. Et être confronté à ça tout seul, ben, en fait, vous vous condamnez à répéter indéfiniment le trauma, en vous en prenant à vous-même. Votre vie, comme le dit...
Est-ce que vous pensez que l'accident les
provoquerait ? Je pense que vous vous mettez en danger, oui. Oui, je pense qu'il y a chez vous une mise en danger. C'est finalement... Je vous écoute, hein.
Oui.
Tel que vous m'en parlez, vous le dites. Hein. Depuis cet accident, régulièrement, tous les deux ans, je suis... Il y a une part de vous, il y a une part de vous qui va, effectivement, qui prend des risques. Malgré vous, inconsciemment. Mais vous y allez. Vous n'avez pas choisi n'importe quel métier. Et puis, au-delà de ça, je pense que oui, il y a une part qui va vers le risque et vers le danger de vous éprouver. Peut-être que c'est votre façon à vous de vous sentir vivant, mais c'est une façon extrêmement dangereuse. Donc c'est de ça qu'il faut parler. Parce que comme le dit une auditrice, Frésia, votre vie est précieuse. Et vous ne pouvez pas la passer à jouer indéfiniment avec. Mais jouer avec... C'est aussi vous sentir, comme on le voit chez certains adolescents qui ont des conduites à risque. Et vous étiez au sortir de l'adolescence, au moment de votre accident. Alors aujourd'hui, vous êtes un homme de 40 ans, mais il y a quelque chose... Vous savez, quand il y a un traumatisme important, il y a le développement psycho-affectif souvent qui s'arrête. Et en vous écoutant, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui... bien malgré vous, s'est arrêté sur le plan de ce développement-là. Comme si c'était gelé, glacé. Et ça me fait penser à ces adolescents qui éprouvent, qui se mettent en danger dans des conduites à risque, mais c'est aussi une façon de se sentir propriétaire de leur vie. Mais votre vie, vous pouvez en faire autre chose que de perpétuellement vous mettre en danger. Paul, des réactions ?
Oui, Jossie, qui est très bouleversée par votre témoignage, Brice, elle voudrait vous dire que l'amour est plus fort que la mort. Vous avez fait l'expérience de la mort, alors aujourd'hui, faites l'expérience de l'amour. Et il y a Marie aussi qui demande et propose peut-être de participer à des groupes de parole. Est-ce que vous l'avez fait ? Et vous pourriez peut-être le faire par le biais d'associations d'accidentés ou de victimes d'accidents de la route.
C'est une bonne idée. Vous m'appelez hein, ce soir pour en parler, Brice.
Oui.
Vous appelez, hein. Donc on a pris, ça montre votre témoignage, illustre dans la douleur à quel point on ne peut pas s'occuper d'un corps humain comme d'une machine que l'on répare. Il ne faut jamais oublier la dimension psychique de l'être humain.
Mais après donc, l'auditrice qui parle d'un groupe de parole, mais je veux dire, étant donné que je n'ai eu aucun suivi, en fait, je ne suis même pas au courant qu'il existe des groupes de parole par rapport à ça.
Mais il faut demander. Il y a des associations de traumatisés cérébraux. Il y a des structures qui existent. Et parallèlement aux groupes de parole, je pense qu'il faut aussi que vous ayez un espace individuel pour partir de... Comme vous l'avez fait avec moi, pourquoi vous appelez ce soir ? Votre interrogation, elle est tous les deux ans. Je vis de graves accidents avec des dommages corporels, de la douleur. Et finalement, jusqu'à présent, vous ne pouviez vous exprimer qu'à travers la douleur physique. Mais moi, j'entends chez vous une douleur morale, très intense, très importante.
D'accord.
Et ça, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper au même titre que la douleur physique. Parce qu'on répare le corps, mais c'est aussi votre tête dont il faut s'occuper. Et toutes ces idées de pourquoi moi j'en suis sortie, qu'est-ce que j'ai comme karma, qu'est-ce que je dois expier. Vous voyez, là, il y a besoin d'un accompagnement. pour justement revenir un peu à la réalité et apprendre à prendre soin de vous. Parce que vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes en vie. Et votre témoignage rappelle la fragilité de l'existence. Et au lieu de l'éprouver constamment, votre vie, il y a à la vivre. À la vivre. Tout simplement. Je vous embrasse, Brice.
Moi aussi, je vous embrasse.
Trouvez quelqu'un, trouvez un bon thérapeute hein, qui va vous accompagner. D'accord ? Vous pouvez demander à votre médecin traitant, vous pouvez demander aux services dans lesquels vous avez été hospitalisé les coordonnées d'un psy qui connaît un peu ce problème des traumatismes. D'accord ?
D'accord.
Et il faut que vous ayez un suivi, là. Hein. Vraiment.
D'accord.
Prenez soin de vous. Et ça prend tout son sens, quand je vous le dis.
À vous également.
Merci, Brice. Au revoir.
Bonne soirée. Au revoir.
Parlons-nous, Caroline Dublanc sur RTL.